France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's in the house. Halia,
Radio Rosana,
Paris. Produce ghetto en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans le monde d'Obey ce soir.
C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses.
Voilà, vous comprendrez très vite pourquoi c'est le marteau de Laurent Fabius après les accords de Paris en 2015 que l'on vient d'entendre. Bonsoir chez Portferré.
Thank you for having me.
Merci de m'avoir invité.
Vous êtes connu sous le nom d'artiste Obey, évidemment, et immanquablement, votre œuvre est associée au portrait de Barack Obama pendant sa première campagne. Vous aviez fait mille choses avant et bien sûr, évidemment, après, notamment d'ailleurs sur les murs de Paris. Les gens du 13e arrondissement, mais aussi du Marais ou de Belleville vivent un peu sous votre regard. D'ailleurs, il semble que Paris soit très Obey compatible. Est-ce que c'est l'esthétique de la ville ou est-ce que c'est son histoire qui fait que nos murs collent à votre œuvre ou est-ce que c'est l'inverse à votre avis?
Well, Paris is such a beautiful city.
Paris est une ville tellement belle.
Anything looks good.
Tout a l'air chouette, tout a l'air beau
of what it has to offer.
Dans ce But mélange de ce qu'elle a à offrir.
I have been very inspired
Mais
by
j'étais très inspiré par certaines esthétiques de Paris. Particulièrement l'Art Nouveau.
Alors, vous êtes à Paris parce que c'est l'une de vos œuvres monumentales qui est sur la façade de l'Hôtel de Ville aujourd'hui. Une œuvre qui invite à l'exposition Paris Bellem, une exposition qui célèbre les 10 ans d'action pour le climat. Comme c'était d'ailleurs l'une de vos œuvres suspendue à la Tour Eiffel qui symbolisait aussi les accords de Paris d'il y a 10 ans. Entre ces deux moments, chez Portferré, on a l'impression d'avoir basculé dans un autre monde. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ?
Yes, a lot of things have divided people around
Beaucoup
the concept
de choses
of climate change.
Ont divisé les gens autour de ce concept de changement climatique.
But I do think that
Mais je pense que
art can help to
l'art
unite
peut
people
aider
and focus
à
on
unir
what
les gens
stake,
et
not just for
mettre
humanity,
l'accent sur ce qui est vraiment en danger, pas simplement pour l'humanité, mais pour toutes les espèces.
This is our only home
C'est
and we have
notre
to share
seul habitat, il faut le partager.
Est-ce que cette œuvre est un chant du cygne, à votre avis, ou pas?
I think that I'm someone who, even in difficult
circumstances, qui même dans des situations difficiles, croit en l'espoir. C'est pas simplement un mot que j'utilise sur mes affiches.
I also like a challenge.
J'aime, je le vois aussi comme un défi.
There are so many challenges now.
Il y a tellement de défis
aujourd'hui
auxquels on devons faire face.
I think using creativity
je pense que utiliser la créativité pour éveiller cette partie humaine, de la nature humaine, des gens qui les rend, qui leur donne de la compassion, eh bien, c'est un défi que je prends tous les jours.
On ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'il y a une larme sous chaque œil de votre visage féminin dans cette œuvre. Vous aviez d'ailleurs ajouté une larme sur le visage de la Marianne de Liberté, Égalité, Fraternité. Ça veut dire, même si vous dites que l'espoir est toujours là, ça veut dire qu'il est bien lointain quand même, le moment où on pouvait encore écrire ce mot sous une image, non ?
The tear in the adaptation of the Marianne.
La larme dans l'adaptation de Marianne
was meant to symbolize
ça voulait dire que c'était un symbole de la distance entre les mots « liberté », « égalité », « fraternité » et les actions.
To follow through and
pour,
deliver on those words.
Vraiment livrer, accomplir ce que ces mots désignaient.
I also used a tear in
J'ai aussi utilisé la larme dans l'image qui est sur l'Hôtel de Ville actuellement,
Because I think
l'Hôtel de Ville de Paris, parce que les gens comprennent lorsqu'il y a de la souffrance qu'il faut faire quelque chose à ce sujet.
Everyone can relate to that,
Tout le monde peut avoir un lien avec ce sentiment de désespoir. Vraiment, ça éveille quelque chose en nous pour qu'on puisse faire quelque chose.
Les mots, à chaque fois, sur vos œuvres ont vraiment un sens. Sous votre personnage, là, il y a marqué terre, respect, résistance, unité. Toute votre œuvre parle de résistance, elle parle même d'émancipation. Elle parle de résister à l'apathie, elle parle de résister à l'ignorance. Est-ce que c'est ça votre plus grande crainte au fond, chez nous, chez vous aux États-Unis, l'apathie et l'ignorance ?
Apathy and ignorance are
Apathie,
tremendous
ignorance,
problems.
Ce sont des problèmes énormes. La démocratie ne fonctionne pas la façon dont elle devrait, parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui prennent part ou et ceux qui participent ne sont pas rigoureux, suffisamment rigoureux sur la compréhension des choses que nous devons affronter. Mon travail, mon œuvre est faite pour inviter les gens à provoquer les autres, à séduire les gens pour vraiment étudier à fond les sujets importants pour créer des débats qui ne se produisent pas. La différence entre mon travail et la propagande, c'est que la propagande veut mettre un terme au débat. Je veux que mon œuvre soit le début d'un débat qui ne se produit pas suffisamment.
Est-ce que vous parlez de créer une conversation ? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé, notamment dans votre pays, avec l'élection de Trump ? Alors que même vous, l'artiste de rue qui est au plus près des gens, qui allait dessiner et peindre sur leurs murs, qui est hyper connecté, est-ce que vous aussi, au fond, vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose ?
Je suis relié. Je suis très au fait de la façon dont les médias sociaux ont été utilisés pour cibler les choses qui déclenchent la peur, la division. Mon œuvre est une façon de s'opposer à ça. Mais la précision de la compréhension du comportement des gens auxquels les algorithmes sont arrivés, c'est très très difficile à combattre, mais je le ferai tous les jours.
Vous avez dit une fois que la rue était le meilleur endroit pour changer le monde, est-ce que vous le croyez toujours ?
Je crois que la rue est un endroit exceptionnel parce que elle a une vitalité, une énergie. Elle montre les transformations du vrai monde, du monde réel. Il y a un danger à changer le monde physiquement. C'est un acte très provocateur. Parfois, quand c'est illégal, c'est un acte de défi. Il faut montrer du courage. Donc, je pense que ça touche les gens de façon émotionnelle, différemment de ce que fait l'Internet. Mais l'Internet a la puissance de pousser les choses dans un tel volume par rapport à la rue que, d'une certaine manière, c'est un défi d'entrer en concurrence avec l'Internet.
Ça veut dire que, pardon, est-ce que ça veut dire que vous sentez vous-même que ce fossé qui est en train de séparer votre société, mais au fond aussi la nôtre, est de plus en plus difficile à combler, et que même vous, l'artiste de rue, vous avez un mal considérable à le combler ? En tout cas, vous vous sentez démuni face à ce fossé-là ?
Je me sens jamais démuni. Mais je me sens frustré. Beaucoup de gens tombent dans les raies de la manipulation trop facilement. Et je pense qu'il est plus difficile de déclencher la compassion et l'espoir que de déclencher la crainte et la division. Mais ça signifie qu'il faut que je travaille plus et que tous les créateurs qui font des films, de l'art, de la musique, tout ce qui est une célébration joyeuse de la connexion humaine, nous devons tous travailler beaucoup plus intensément.
En 2017, on s'en souvient, c'était pile au moment de l'investiture de Trump 1. Vous aviez organisé une exposition le jour de l'investiture chez vous à Los Angeles. Il y avait un projet collectif qui s'appelait We the People. On a vu des images de We the People partout. On se souvient de cette image qui est devenue iconique avec trois femmes, l'une voilée, l'autre latino, la troisième afro-américaine. Aujourd'hui, on a le sentiment que, y compris les artistes, sont assommés et que finalement, même cette image qui, à ce moment-là, était iconique, peut-être dans l'Amérique d'aujourd'hui et le monde d'aujourd'hui ne le serait plus.
J'étais très heureux de voir la réaction à mon œuvre qui célébrait l'humanité et l'égalité des gens que Trump avait attaqués. Dire qu'ils sont tout autant américains les uns que les autres. C'était un moment très fier de la résistance pour moi. Et récemment, vous savez, le No King, il n'est pas un roi, cette manifestation qui s'est produite à travers les États-Unis, cette image est revenue à ce moment-là. Et donc, je suis heureux que c'est encore une pertinence, cette image. Mais je cherche la chose à venir qui fonctionnera pour ce moment.
C'est intéressant que vous disiez que vous cherchez la chose à venir parce qu'on a vraiment l'impression que c'est exactement ça qui se passe dans votre pays aujourd'hui, chez les gens ordinaires, chez les politiciens, mais aussi chez vous, les artistes, en fait. Comment on fait différemment ? On a le sentiment que vous n'avez pas trouvé la clé et vous nous expliquez que même vous, vous n'avez pas cette clé.
Non. Je ne sais pas, je ne connais pas la solution, je n'ai pas déchiffré le code. J'ai fait confiance à mes instincts. Si quelque chose me fait sentir de la compassion envers les autres, et bien que ça aurait le même impact sur les autres quand je le partagerai. Mais j'ai trouvé que les murs plus épais, les murs plus hauts, et je ne peux pas tout à fait comprendre cela parce que je n'ai que mon point de vue. Mais c'est une recherche constante sur la façon de dépasser ces problèmes.
Shepard Ferry, la crainte de ces deux mondes et de ces murs dont vous nous expliquez qu'ils se lèvent dans votre pays et ailleurs d'ailleurs, l'autre crainte ce serait que finalement on détourne votre œuvre. Et ça s'est déjà produit. Vous aviez protesté ici en France très vigoureusement parce que votre Marianne s'était retrouvée utilisée aussi par Jordan Bardella du Rassemblement National. Vous disiez qu'il en avait détourné le sens. Mais je me demandais justement si détourner une œuvre, c'est pas aussi s'en emparer, et si c'était pas finalement inhérent au street art. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, dans le monde que l'on traverse, de conserver l'intégrité de son œuvre quand elle est sur tous les murs? Est-ce que c'est pas ça la difficile rançon à payer aussi quand on devient iconique? Et est-ce que ça n'ajoute pas à la difficulté de votre travail aujourd'hui dans la compréhension du monde?
J'ai accepté que lorsque quelque chose devenait un point de référence, que ça serait subverti, que ce serait utilisé par d'autres, qui serait en contradiction avec le sens originel, comme ce qu'a fait Jordan Bardella. Mais ce que je tente de faire dans ces situations, c'est de rappeler aux gens à quel point il est absurde de faire cette contradiction, donc qu'ils puissent voir quelqu'un qui tente de manipuler un symbole. Ça me pousse aussi à continuer à évoluer dans mon style, sachant qu'une fois que le sens d'une esthétique était compromis, à ce moment-là, il faudrait que je mette en place une nouvelle esthétique pour faire avancer mes idées d'une façon qui ne pourrait pas être détourné rapidement.
Est-ce que vous continuez à faire des graphes sauvages? Est-ce que c'est peut-être ça l'une des réponses de retourner à la base, aux graphes sauvages sur les murs, à ces instants-là et ces moments-là?
I love graffiti because
j'aime les graffitis.
It allows
parce que people who don't ça permet have power aux gens qui n'ont pas le pouvoir de toutefois avoir une voix.
I think that
je pense que
as an act of defiance,
en tant qu'un acte de défi actif,
voice, but,
je n'ai peut-être pas une voix très forte, mais j'existe.
It's a very important movement.
C'est un mouvement extrêmement important.
But I also think that infiltrating
mais je pense aussi que l'infiltration du système lui-même et essayer de l'améliorer de l'intérieur, ou pour utiliser un terme français, pratiquer le détournement, comme on dit en français, c'est très important. Donc quelqu'un dira que moi, être à cette radio, c'est une compromission. Mais moi, je suis ici pour partager mes idées en utilisant cette machine. Parce que, de mon point de vue, il peut y avoir aussi quelqu'un avec qui m'écoutera et qui aura des idées complètement différentes des miennes. Et je crois que c'est très important d'avoir cette occasion. Je crois que c'est très important.
C'est intéressant cette idée du détournement, parce que effectivement votre œuvre a été parfois détournée. Vous ne vous êtes pas encore emparé, par exemple, de Trump pour le détourner dans votre sens à vous. Est-ce que vous y songez ou est-ce que vous vous l'interdisez au contraire?
Trump is a unique character.
Trump est un personnage unique.
He is someone
je pense que c'est quelqu'un dont le pouvoir vient de points d'intentions positives et négatives, parce qu'il veut l'attention et le chaos. La meilleure des choses pour les États-Unis et le monde, ce serait de l'ignorer, comme on ignorerait un enfant qui fait un caprice pendant une conversation d'adulte.
That being said,
mais cela dit,
I have made a couple of images
j'ai fait quelques images qui font référence à lui,
but I don't consider
mais
him to
je
be
ne le considère pas comme
problem.
Étant le problème.
He's more the,
il est plus,
the pustule created by the underlying bacteria.
Si vous voulez, c'est les symptômes qui sont créés par la bactérie qui se cache derrière.
En tout cas, Shepard Fairey, Obey, votre, le climat, vous ne l'ignorez pas. L'exposition à la mairie de Paris, elle s'ouvre sur votre œuvre monumentale. Vous êtes aussi à l'intérieur avec deux œuvres, mais l'exposition Paris Bellem est faite de multiples artistes en partenariat avec la galerie Itinérance. Et vous avez le temps, vous qui passez par Paris, puisque c'est ouvert jusqu'au 13 décembre. Merci beaucoup de votre passage chez nous.
Thank you so much for having me.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci à vous. Et merci aussi à Michel Zlotowski qui traduisait les propos de Shepard Fairey. La suite ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde avec le peuple nubien, autrefois installé au bord du Nil, à qui on avait promis un retour sur leur terre engloutie par le barrage d'Assouan. Ils attendent toujours. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, Charlotte Spiré sous les radars.
Un petit bœuf Wellington, ça vous tente, mais méfiez-vous, une Australienne attend son jugement pour avoir causé la mort de 3 personnes en leur servant une farce avec des champignons vénéneux.
Le monde à 18h50 et Claude Guibal. Bonsoir Claude.
Bonsoir. Bonsoir, nous on va essayer de voir, après 12 jours de guerre entre l'Iran et Israël, si le régime des Mollahs tient toujours, et si oui, pourquoi.
Et le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir, le festival du film des Champs-Élysées vient de se terminer. On y a découvert cette semaine le nouveau film de Céline Song, Matérialiste, une comédie romantique 2.0, à ne pas louper.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète commence à peine. Il passe par Chicago avec Horse Girl, et Thomas qui réalise cette émission nous dit que c'est léger, c'est frais, c'est parfait pour l'été. Switch off, c'est dans la playlist d'Inter. Le reportage ce soir est dans ce qui a autrefois été la Nubie. En réalité, nous sommes en Égypte. Les Nubiens étaient installés entre le Soudan et l'Égypte, le long du Nil. Leur territoire a disparu, englouti sous les eaux. Quand le barrage d'Assouan a été construit par Nasser, 100 000 Nubiens ont été déplacés. C'était il y a plus de 60 ans et relogés tant bien que mal dans des villages artificiels construits en plein désert. Ce peuple a été oublié jusqu'en 2014, quand la nouvelle constitution égyptienne, née après le printemps arabe, a promis dans son article 236 un droit au retour pour les Nubiens sous 10 ans sur leurs terres ancestrales, au bord de ce qui est désormais le lac Nasser. 11 ans plus tard, rien. Et le reste, c'est Martin Dumas-Pimbo qui raconte.
Attablé en terrasse d'un café, Hassan al-Sourayar égrène son chapelet et chante l'exil.
Je chante pour la Nubie, celle qui est sous l'eau. Je chante la tristesse de l'avoir perdue.
Le célèbre artiste nubien, installé à Alexandrie, a traversé le pays pour l'Aïd el-Kébir, retrouver ses proches et ses amis non loin d'Assouan, dans le village où il est né, il y a un demi-siècle.
La langue nubienne est l'un des miracles de la vie. Elle existe depuis des milliers d'années. Nous continuons à chanter, à composer de nouvelles chansons. Et grâce à cela, la Nubie perdure et vivra tant que nous chanterons.
Le village de Dahmit fait partie de ceux qui ont été construits dans les années 60 pour reloger les déplacés après l'édification du Grand Barrage. Amer Nour aussi est né ici.
La Nubie a été totalement sacrifiée. Malheureusement, nous n'avons jamais obtenu justice. Regardez, 62 ans après le déplacement, il n'y a toujours pas de système d'assainissement dans les villages de déplacés. C'est pourtant un des droits humains les plus élémentaires.
Et cet article 236 de la Constitution qui promet sous 10 ans un droit au retour. On est 11 ans après aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ?
Cette décision ne sera jamais appliquée. Au contraire, il y a eu un décret présidentiel, le décret numéro 444, qui établit une zone militaire de 110 km depuis la frontière avec le Soudan. Alors qu'on aurait dû obtenir 17 villages dans cette zone. C'est une injustice flagrante.
Pour réparer l'injustice, Abdel Fattah Hossein Abdel Hafez, président de l'Union des enfants de Nubie, en appelle aux autorités du Caire.
Nous demandons des aides en grand nombre pour le peuple nubien. Il doit pouvoir être intégré au développement du pays. Si les Nubiens travaillent et se sentent intégrés, personne ne s'y opposera. Personne ne fera de problème.
Car la colère était montée en 2017. Une manifestation pacifique demandant l'exécution du droit au retour le long du lac Nasser avait été violemment réprimée à Assouan. Ce militant, qui souhaite rester anonyme, se rappelle.
Il y a des jeunes qui avaient été détenus en prison pendant 70 ou 75 jours.
L'épisode est resté comme un traumatisme pour beaucoup de Nubiens qui préfèrent aujourd'hui rester silencieux.
Les Nubiens sont une minorité en Égypte. Mais que Dieu nous préserve, il n'y a pas de minorité en Égypte. En tout cas, selon le gouvernement. Nous sommes tous des Égyptiens, des citoyens modèles. C'est le narratif que le gouvernement essaye d'imposer dans l'esprit des gens. Sans doute cela contribue-t-il à rendre la situation très silencieuse, très morte.
Face à une promesse constitutionnelle restée vaine et un pouvoir militaire qui refuse d'entendre la voix des minorités, il reste la musique et la culture pour faire survivre un héritage millénaire et une langue.
Martin Dumas-Primbault pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Charlotte Piret. Et c'est d'abord en Zambie que nous allons, Charlotte, pour les funérailles de l'ancien président Lungo.
Oui, sauf qu'en réalité, ce n'est pas en Zambie que ça se passe, mais à 1500 km au sud, à Johannesburg. Et ce que vous venez d'entendre, ce n'est que le début de la cérémonie, car celle-ci a été suspendue ce matin. Alors, si on reprend le fil des événements, Edouard Lungu, 68 ans, est décédé il y a maintenant 3 semaines quand même, à Pretoria, en Afrique du Sud, où il était soigné. Son rapatriement dans le pays qu'il a dirigé pendant 7 ans était prévu en vue donc de ses funérailles, mais c'était sans compter sur l'opposition de la famille Lungu, qui a refusé jusqu'à qu'à l'arrivée en Zambie, la dépouille soit accueillie, outre les honneurs militaires, par Hakainde Hichilema, actuel président zambien, mais surtout grand ennemi de la famille Lungu. Il faut dire que depuis le changement de pouvoir il y a 4 ans, la femme d'Edgar Lungu, mais aussi ses 3 enfants, ont été accusés de blanchiment, de fraude, de corruption, pour certains emprisonnés. Eux crient à la vendetta politique et ont donc organisé les obsèques à Johannesburg, malgré des recours judiciaires. La foule était donc déjà rassemblée dans l'église lorsque le juge, saisi par la Zambie, a suspendu rendu les obsèques en urgence et annoncé un examen au fond de l'affaire le 4 août prochain. En Australie, les jurés du procès aux champignons délibèrent en ce moment même. Oui, dans cette affaire à la une des médias australiens depuis plusieurs semaines, celle de ce repas de famille dans un petit village du sud-est du pays, un bœuf Wellington, vous savez, ce plat de viande rouge enrobé de pâtes feuilletées et farci aux champignons sur le papier, ça a l'air délicieux. Sauf que les champignons, ce jour-là, se sont avérés être des amanites phalloïdes particulièrement vénéneux et ont causé la mort de trois personnes. Les beaux-parents, la belle-tante de l'hôtesse, Erin Patterson, 50 ans, qui est donc accusée de les avoir délibérément empoisonnés. Elle, qui n'a pas mangé de farce ce jour-là, parle d'un terrible accident. Aux 12 jurés donc de trancher désormais. Ils sont partis délibérer avec les dernières recommandations du juge de Morwell, les appelant à laisser leurs sentiments de côté dans cette affaire qui a ému tout le pays, pour ne déterminer que si l'accusation a prouvé la culpabilité de l'accusé au-delà du doute raisonnable, selon la formule consacrée.
Et puis nous voilà maintenant dans un élevage de chiens en Corée du Sud.
Oui, élevage de viande de chien, précisément un plat traditionnel en Corée du Sud. On en consomme aussi en Chine, en Thaïlande, au Nigeria ou encore au Ghana. Mais le gouvernement de Séoul, lui, a décidé de l'interdire. Une loi a été adoptée en janvier dernier, rendant illégale toute vente, achat, consommation de viande de chien à l'horizon 2027. En conséquence, plus de 600 fermes canines ont déjà fermé leurs portes dans le pays, mais il en reste près d'un millier. Avec l'épineuse question de savoir que faire des animaux, près de 500 000 selon les chiffres du gouvernement, devenus pratiquement invendables, plusieurs associations ont déjà tiré la sonnette d'alarme, les refuges débordent et les particuliers sont réticents à adopter ces chiens issus d'élevages de boucherie car réputés traumatisés, il y a de quoi. Plane donc le risque de devoir massivement euthanasier ces animaux restants.
Ah ben voilà une belle histoire, dites-moi. Merci beaucoup Charlotte Firé, à demain, vous partez avec le grand Bob Marley qui chante So Much Trouble in the World, et vous savez quoi, il n'a pas tort. Trouble in the World sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est Claude Guibal. How dare you? The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Claude, après 12 jours de guerre, de bombardements intenses, la trêve laisse un pays profondément ébranlé, mais toujours debout.
Oui, Fabienne, en lançant son offensive sur l'Iran, Benjamin Netanyahou cherchait-il uniquement à mettre fin au programme nucléaire iranien ou à faire tomber le régime? Eh bien, la réponse est lui-même qu'il a donnée en déclarant, dès les premières heures de l'attaque, ne pas exclure l'élimination du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, avant d'encourager le peuple iranien à se soulever. En témoigne encore le ciblage des gardiens de la Révolution, qui est donc l'armée du régime, dont les plus hauts gradés ont été traqués, ont été tués. Les frappes contre le QG des milices populaires islamistes Basiji, qui sont le bras armé de ce régime pour la répression de l'opposition et des manifestations. Et encore le bombardement des portes de la prison d'Evin, où sont enfermés dans des conditions effroyables les prisonniers d'opinion.
Et donc malgré cela, le régime tient bon.
En tout cas, pour l'instant. Et Donald Trump, en annonçant tout à l'heure reprendre les négociations sur le nucléaire avec l'Iran la semaine prochaine, a presque remis ce régime en selle, hein, puisqu'il le rétablit de facto comme son interlocuteur. Et c'est bien une des clés pour comprendre pourquoi ce régime iranien n'est toujours pas tombé, malgré son isolement et malgré le fait que la majorité des Iraniens le détestent et veulent sa chute. Au niveau international, rares sont ceux à promouvoir les changements de régime par la force. Les précédents irakiens, libyens, afghans ont tous dégénéré en guerre civile dévastatrice. Or, ce que veut Donald Trump pour l'instant, ce n'est pas un changement de régime, c'est faire du business, des prix du pétrole maîtrisés. Et pour cela, il lui faut un golfe persique en paix. C'est une préoccupation partagée par les monarchies sunnites du golfe, les grandes rivales pourtant de l'Iran chiite, mais qui ne sont pas pressées non plus de voir la région basculer.
Parce que l'angoisse, Claude, c'est l'après. Une fois le régime tombé, le risque, c'est le vide ou le chaos.
Oui, et c'est bien le problème. Quand on a une opposition aussi éclatée, il y a l'opposition en exil, totalement discréditée sur le plan intérieur, comme les Moudjahidines du peuple, un groupe islamo-marxiste détesté par nombre d'Iraniens pour s'être aligné avec Bagdad pendant la guerre Iran-Irak, ou encore le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, héritier d'une monarchie elle aussi détestée par une grande partie de la population et proche d'Israël. Quant à l'opposition intérieure, elle a subi la répression, ses leaders politiques sont en prison ou surveillés, et puis il y a la courageuse société civile qui a presque fait vaciller le régime plusieurs fois, comme avec Femmes, Vie, Liberté, mais sans pouvoir aller jusqu'au bout, faute encore d'être structurée. Or, cette opposition-là, elle est déchirée par des sentiments contradictoires entre sa volonté farouche de voir finir le régime et son refus de voir ce changement imposé de l'extérieur, car l'Iran, eh bien, ce n'est pas une opposition simpliste de religieux contre laïcs. C'est d'abord un pays très nationaliste, et ça dépasse les clivages religieux, et paradoxalement, ça pourrait aider le régime à resserrer les rangs derrière lui. Ce qu'il explique, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Iran, ce n'est pas le pays des mollahs, ce n'est pas que le centre du monde chiite. Pour les Iraniens, l'Iran, avant tout, c'est la Perse, une des civilisations les plus riches, les plus puissantes de l'histoire. C'est un orgueil qui fait le ciment de ce pays et explique depuis des années sa résilience malgré les chaos, en tout cas jusqu'ici.
Claude Guibal, merci beaucoup. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellissier.
Moteur. France Inter. And the Oscar goes to... Un jour dans le monde.
Hey, are you single? I'm a matchmaker. Give me a call if you want to meet somebody.
Avec son premier film sélectionné aux Oscars, Past Lives, elle avait démontré une aptitude hors du commun, Corinne, à ausculter au cinéma les rapports amoureux aujourd'hui. La réalisatrice sud-coréenne Céline Song sort la semaine prochaine un nouveau film qui s'appelle Matérialiste. C'est une rom-com, donc une comédie romantique, au casting 5 étoiles, Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, Captain America, donc. Voilà qui pourrait bien nous réconcilier avec un genre ces derniers temps un peu en perte de vitesse.
Mais l'époque a changé, le regard sur le couple aussi. On ne raconterait pas en 2025 Pretty Woman de la même manière. Plus aucune fille aujourd'hui n'a envie d'être Julia Roberts, de faire flamber la carte bleue de Richard Gere en shopping, tout en rêvant au prince charmant. À la place, on veut des récits de femmes fortes, pas exploitées, qui prennent le pouvoir, exactement à la manière du personnage de Dakota Johnson dans Matérialiste. Marieuse professionnelle à New York, hyper douée dans son travail, 9 mariages à son actif depuis qu'elle est en poste, un bel appartement, un gros salaire, toujours célibataire à 40 ans, mais c'est par choix. Un petit côté working girl qui rappellera l'ambiance des films des années 80 et un rapport à l'amour que Céline Song va s'employer dans le film à complètement déconstruire pour nous livrer ce qui ressemble à une véritable étude sociologique sur la place des femmes en 2025 dans le couple et le rapport amoureux. Le résultat sonne juste avec des personnages attachants. Le film est ultra bien écrit, les dialogues ciselés et Céline Song très habile dans le genre de la rom-com.
C'est un genre tellement puissant. La différence entre l'époque de Jane Austen et aujourd'hui, dit, c'est que les femmes ont désormais plus de possibilités d'indépendance, vous ne trouvez pas ? Le mariage n'est plus la seule option. On n'est plus obligé d'épouser un homme pour assurer son avenir. On a d'autres options. On peut travailler et parfois même gagner plus d'argent que les hommes. Ce changement-là est incroyable et représente bien, je trouve, la modernité de l'époque. Pour moi, c'est un puissant moteur de représenter les femmes telles qu'elles sont. Et ce qui m'intéressait beaucoup à ce propos dans le film, c'est la façon dont les rencontres aujourd'hui ont transformé le marché du mariage ou de la drague. Faisant de nous des objets ou des marchandises de consommation rapide. Car désormais, tout passe par le téléphone.
Et alors, Corinne, Céline Song n'est pas la seule à essayer de renouveler le genre de la comédie romantique, mais ça sonne juste parce que chacun de ces films est un savant mélange entre l'intime et l'universel.
Le point de départ à chaque fois vient de son vécu, de son expérience. Dans le film Past Life, c'était une femme arrivée à l'âge adulte en couple qui recroise un jour son premier amour. Aujourd'hui, avec le film Matérialiste, c'est un petit boulot que Céline Song avait exercé pendant 6 mois avant de se lancer comme cinéaste. Comme Dakota Johnson, dans le film, elle a été marieuse professionnelle, une vraie mine d'inspiration qui l'a poussée à se poser d'emblée la bonne question, pourquoi on se marie, et de l'explorer à partir d'un personnage un peu cynique, obsédé par le match parfait, comme sur les applications de rencontres en ligne et qui voit l'amour à travers un physique, un compte en banque. En gros, l'amour, c'est des maths.
Ce que m'a enseigné mon travail en agence matrimoniale, c'est que tout le monde recherche la même chose. Une taille, un poids, un revenu et un style de vie idéal. Sans doute à cause de la manière dont les médias parlent du couple ou de sa représentation dans les films. Des acteurs super glamour dans la peau de gens ordinaires avec des métiers incroyables, même si on sait que c'est du cinéma. Tout le monde rêve de ça et cherche la personne qui a tous les atouts. Ce qu'on appelle dans le film une licorne. Le concept fait rêver, non ? C'est comme un objet à acquérir. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour, vous ne trouvez pas ? Parce que si on est amoureux, on ne voit ni la taille, ni le poids, ni rien du tout. Ce n'est pas ce qui compte. C'est une recette bien gardée, et malgré tous nos efforts en matière d'IA ou d'algorithme, vous ne pourrez jamais théoriser le mystère de l'amour. C'est juste un humain en face d'un autre qui se dit « je pourrais rester là pour toujours ».
Tu veux un drink ?
Sure, Coke and beer.
Hey, buddy.
Hi, John. Dakota Johnson, dans le film, choisira-t-elle du coup son ancien petit ami fauché, Chris Evans, ou Pedro Pascal, le millionnaire sexy célibataire ? Choix cornélien.
Allez, j'ai l'impression qu'on le sait déjà quand même. Le film s'appelle Matérialiste, il est au cinéma la semaine prochaine. Corinne Pellissier, merci beaucoup.